gouvernementale. Mais l'année prochaine sera-t-elle meilleure? Il reste optimiste. Malheureusement, les statistiques ne lui donnent pas raison.
Merci beaucoup, Salwa. Et pour le débat et nous accompagner dans cette première partie de ce Washington Forum, j'ai avec moi deux invités. Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, et Bagassi Koura, chef de la section Bambara de VOA Afrique. Merci, monsieur, d'être avec nous. Idriss Fall, l'hécatombe qu'auguraient beaucoup de spécialistes n'a pas eu lieu, certes, mais le continent africain a quand même beaucoup souffert de la pandémie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la gestion de la pandémie en Afrique pour vous?
Non, je crois qu'on avait prédit une hécatombe, mais en fait, les prédictions personnelles n'ont pas eu lieu. Les pays africains ont fait beaucoup mieux que l'on s'y attendait. Sauf que maintenant, quand même, à la fin de l'année, il y a une seconde vague qui est en train de reparaître un peu au Sénégal, au Mali. Mais ce n'est jusque-là pas les chiffres énormes qu'on connaît aux États-Unis ou en Europe,
à d'autres pays. À part peut-être l'Afrique du Sud quand même, où quand même on a, oui, l'Afrique du Sud est dans une situation un peu différente. Alors Bagassi, les économies africaines ont énormément souffert de la pandémie, hein, alors que le continent n'est pas le plus touché. La mondialisation, dit-on, y est pour beaucoup. Quelle leçon faut-il tirer de tout cela? Comment jugez-vous la réponse des gouvernements et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon?
Ben, ce que la crise du Covid vient rappeler en termes d'intégration africaine, c'est qu'il faut accélérer ce processus parce que le commerce intra-africain jusqu'à présent est extrêmement faible. Récemment, dans un article, le Financial Times disait qu'en 2019, seulement 14% des échanges étaient effectués entre pays africains, ce qui est plus de 70% en Europe ou en Asie. Et donc, d'où la nécessité que les pays africains puissent améliorer cet aspect des choses. Et vous savez, la ZLEC, la zone de libre-échange qui devrait faciliter cela, doit entrer en vigueur ce 1er janvier, mais il ressort que la plupart des pays ne sont pas prêts, n'ont pas les dispositions douanières et autres, les autres réformes pour appliquer cet accord de libre-échange, cette intégration entre pays africains. Donc, si on avait des instruments comme ça qui fonctionnaient, peut-être que la crise du Covid allait avoir moins d'effets sur l'économie. Mais le fait que beaucoup de nos produits viennent d'Europe, d'Asie et d'Amérique et que toutes ces économies ont été impactées a aussi énormément joué sur le continent.
Alors Idriss, sur le plan politique quand même, la pandémie n'a pas empêché les élections de se tenir et entre autres débats sur le troisième mandat en Côte d'Ivoire et en Guinée, les élections au Niger quand même où Mamadou Issoufou, le président sortant, ne s'est pas présenté. Pour vous, c'était quoi les grands événements marquants en 2020 sur ce plan?
Les élections au Niger, apparemment, qui sont relativement bien passées. Il faut aussi signaler qu'il y a aussi des élections en Centrafrique, qui apparemment aussi se sont relativement bien passées, malgré l'insécurité ambiante. Et les deux gros événements, c'est effectivement la candidature à un troisième mandat de M. Alassane Ouattara et la candidature à un troisième mandat de M. Alpha Condé. Et donc, dans ces deux pays, il y a Alassane Ouattara a évoqué un cas de force majeure après le décès de son couffin et premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Il vient de remporter les élections le 21 octobre. Pareil pour Alpha Condé, qui aussi a soutenu le saut et le poids, mais finalement s'est présenté en troisième mandat et l'opposition a dénoncé tout ce qu'elle pouvait dénoncer. Et le monsieur aussi, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a été investi, il a appelé les Guinéens à tourner la page du passé. Donc ça, c'est au plan politique. Il y a eu d'autres élections de l'année dernière. Il y a eu des élections au Togo, il y a eu des élections en Tanzanie. Mais donc, c'est fabrique des... Et politiquement aussi, vous signalez que c'est l'année où M. Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé après plusieurs mois de manifestations. Et aujourd'hui, le Mali est dans une phase de transition avec certains colonels Bandao et qu'ils ont 18 mois pour organiser des élections générales.
Alors Idriss, on va passer à un autre sujet que vous aviez commencé à aborder, c'est la RDC. C'est une fin d'année assez mouvementée dans ce pays avec ce que certains appellent la reprise en main de Félix Tshisekedi. L'éclatement de la coalition FCC-CACH a-t-elle été une surprise pour vous?
Non, pas du tout. C'était un mariage contre nature, comme on dirait bien. Et que je crois qu'on ne pouvait pas avoir deux pilotes dans le même avion et que Tshisekedi, tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas réussir ce pari. Il a réussi quand même à redéfinir une majorité à l'intérieur de l'Assemblée qui nous permettra d'accompagner ces politiques que d'avoir cette sorte de céphalisme tout le temps où l'ancienne présidente de l'Assemblée n'est pas d'accord avec le président. Je crois qu'il fallait quand même arriver à cette situation, tout le monde craignait. J'ai même entendu un ministre français dire à ceux qui disent on ne sait pas si vous serez président jusqu'à la fin de l'année, après une rencontre à Brazzaville. Donc tout ceci montre quand même qu'il a eu l'initiative qu'il fallait régler une question politique qui ne lui permettait pas d'avoir les coups de France et être le seul pilote dans l'avion pendant que Joseph Kabila est au Sénat. Donc je pense que c'est un dénouement assez bien pour le pays, même si jusque-là, l'Est subit encore tous les enjeux sécuritaires que vous connaissez, avec des rébellions à gauche et à droite. Mais je crois que ça, c'est un combat à long terme et que, de part, c'est déjà un premier pas qui nous permet d'aller mener sa politique, particulièrement dans la lutte contre la corruption, parce que les Américains le soutiennent à fond la caisse pour véritablement essayer de déblayer le fléau de la corruption en République démocratique du Congo, Abdou.
Alors, Bagassi, avant de passer au Sahel, un mot sur la RDC ou plus globalement sur, disons, l'histoire des coalitions au pouvoir en Afrique. C'est pas toujours facile, mais il y a eu des cas quand même où ça a marché plus ou moins pour la RDC. C'était un peu plus compliqué, n'est-ce pas?
Oui, pour la RDC, c'était beaucoup plus compliqué parce que Joseph Kabila, comme diraient les anglophones, c'était l'éléphant dans la chambre qui dérangeait tout le monde. Et donc, c'était difficile pour le gouvernement d'avancer dans ses programmes. Mais ailleurs, des coalitions ont été mises en place. On a vu, par exemple, en Côte d'Ivoire, après les élections, l'unique candidat de l'opposition, Kakabé, à qui on a offert un portefeuille de la réconciliation. Ça peut être beaucoup plus symbolique que les autres coalitions qu'on peut voir ailleurs. Au Burkina Faso, on s'apprête à former une coalition parce que le parti au pouvoir n'a pas pu remporter la majorité au Parlement. Donc, on a quand même des coalitions qui marchent un peu partout, mais pour le cas de la RDC, c'était assez spécifique parce que Kabila, qui était quand même un peu comme en embuscade hein, pour peut-être revenir un jour ou en tout cas avoir une main pour contrôler la RDC, même s'il n'est plus vraiment aux affaires.
Oui, on va suivre en tout cas la situation RDC tout au cours de l'année certainement à venir. Alors, on va terminer rapidement sur le Sahel. Bagassi, le Sahel qui continue de subir des attaques djihadistes, pensez-vous qu'on pourrait avoir une amélioration en 2021?
C'est difficile à dire. 2020, je ne sais pas où on placerait ce bilan. Apparemment, les choses se sont légèrement améliorées, mais la situation est restée préoccupante. De nombreuses attaques terroristes. Il y a eu des affrontements intercommunautaires dans le centre du Mali, dans le nord du Mali. Et il y a eu, bien sûr, cette affaire de libération d'otages avec Soumaïla Cissé, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours du Covid-19. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on attend depuis des années la montée en puissance du G5 Sahel. En tout cas, en 2020, ce n'est pas arrivé. Cette force sous-régionale est restée silencieuse. Et donc, espérons qu'en 2021, les choses vont changer à ce niveau, que les États vont mieux s'organiser. Ce qu'il faut, dire, c'est que le Mali est maintenant en transition, ce qui affaiblit énormément les institutions dans ce pays. Est-ce que cela va porter un coup aussi sur la capacité du Mali à lutter contre les groupes djihadistes? C'est difficile. Et l'autre élément qu'il faut noter, c'est que pour la première fois, les Nations Unies ont indiqué nommément les forces maliennes d'avoir commis des crimes de guerre, des accusations qu'on dit qu'ils pourraient servir devant des tribunaux pour, en cas de procès contre les forces de sécurité. Et bien sûr, les groupes armés ont été accusés par les mêmes Nations Unies de crimes contre l'humanité. Donc, il y a toutes ces exactions liées aux groupes terroristes, mais aussi aux forces de sécurité au Burkina, au Niger et au Mali. Et on espère que peut-être en 2021, les choses vont s'améliorer.
En tout cas, c'est une situation préoccupante que VOA va suivre tout au long de l'année 2021 pour nos téléspectateurs. Alors, je m'en vais lire quelques commentaires que nous avons reçus sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaké à Kinshasa nous dit que sur le plan politique, la question du troisième mandat a troublé le continent car ces mandats de plus en Côte d'Ivoire et en Guinée ont créé l'instabilité non seulement dans ces pays, mais dans toute la sous-région ouest-africaine. Mamadou Lamaranba à New York écrit « Pratiquement, ce sont les mêmes sujets qui ont retenu mon attention sur le continent cette année et la mort de certaines grandes personnalités qui ont marqué leur époque. » Il parle des anciens présidents du Mali, du Ghana, du Burundi et récemment le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Et archiduc Théodore depuis N'Djamena nous dit que la maladie Covid-19 est la véritable terreur qui a fait trembler le monde entier en 2020. Elle nous a obligés à changer nos comportements avec les gestes barrières. Voilà donc, merci pour ces téléspectateurs et à tout le monde. Merci à mes deux invités, Bagassi Koura et Idriss Fall. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Le monde des arts a tourné au ralenti en 2020. Beaucoup d'événements culturels n'ont pas pu se tenir à cause de la pandémie de Covid-19, sans oublier que l'Afrique a perdu beaucoup de grands artistes cette année. Retour sur une année difficile, mais qui n'a pas ralenti la créativité des artistes avec Roger Montou.
Cette année 2020 a été l'année de la métamorphose de l'expression culturelle africaine. Même si l'Afrique a perdu de grandes légendes, elle a su trouver des voies et moyens de préserver et faire renaître son histoire, faire rayonner son patrimoine à l'échelle mondiale, dans la mode, la musique, l'écriture et dans d'autres aspects de la culture. Dans cette revue, nous retraçons les moments clés du monde de la culture en Afrique.
En Côte d'Ivoire, les chanteurs Yodé et Siro en garde à vue pour outrage à magistrat. La justice reproche aux deux artistes connus pour être très critiques vis-à-vis du pouvoir d'avoir manqué de respect au procureur d'Abidjan durant un concert. L'artiste malien Sidiki Diabaté en garde à vue est sous le coup d'une enquête pour viol, coups et blessures selon les accusations de sa compagne de longue date Mariam Sou. Contre l'artiste, la jeune femme vivait un enfer quotidien sous les coups et les brimades psychologiques du chanteur. La chanteuse béninoise et ambassadrice de l'UNICEF, Angélique Kidjo, a reçu le prix du meilleur album de musique du monde pour Célia, le 4e Grammy de sa carrière. Un prix qu'elle a d'emblée dédié à Burna Boy, l'artiste nigérian connu pour être un maître de l'afrofusion et son principal compétiteur. Le chanteur Akon a concrétisé enfin son projet grâce à la signature d'un contrat de 6 milliards de dollars dédié à sa construction, la création d'une ville touristique et écologique à une heure de Dakar au Sénégal. D'après la superstar, sa ville Akon City devrait bientôt se joindre à la liste de grandes villes comme Singapour ou Brasilia. Plusieurs incendies ont été déclenchés un certain vendredi 28 février en fin d'après-midi dans le 12e arrondissement de Paris en mars du concert de Fally Ipupa, star en République démocratique du Congo à l'Accor Hotel Arena. La gare de Lyon a été évacuée, les pompiers ont pu maîtriser le feu. La France officialise la restitution d'un sabre historique au Sénégal et de 26 objets nés au Bénin dans le cadre de sa décision de restituer des œuvres culturelles prises pendant la colonisation en Afrique. Ce transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine avait été initié par le président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017. Un bel hommage à l'identité noire, l'album visuel de Beyoncé, un vibrant hommage à l'identité noire et aux cultures africaines. Le film musical Black is King, conçu par Beyoncé pour Disney Plus, livre un message puissant. Le film n'a pas tardé à figurer dans les sujets les plus commentés sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, la Congolaise Anifa Mvuemba a captivé les internautes avec la présentation en 3D de la dernière collection de sa marque Anifa. Particularité, un défilé sans mannequin ni podium, mais un mouvement du vêtement plus vrai que nature. La romancière subsaharienne Djali Amadou Amal remporte le prix Goncourt des lycéens avec les impatientes décernées par un jury national représentant 2000 lycéens. Sa chanson est devenue un phénomène mondial grâce à un défi TikTok. Ce défi est devenu viral après le confinement. On y voit des personnes danser sur la chanson Yerusalem de Master KG, interprété par la chanteuse Namsibo. Burkina Faso, la deuxième édition des trophées du livre Plume d'or s'est tenue le 14 novembre 2020 à Ouagadougou. Cet événement a été un cadre de récompense, événement de distinction des écrivains. Plume d'or, la deuxième du genre cette année. Le Bénin restaure ses monuments pour sensibiliser à l'histoire de l'esclavage. La petite ville côtière de Ouida est en travaux, alors qu'à travers le monde on déboulonne les statues d'anciens esclavagistes, le Bénin a décidé de restaurer ses monuments pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation. La Somalie a fait de grands progrès dans la revitalisation de son patrimoine culturel en restaurant ses principales institutions culturelles, notamment le musée national, la bibliothèque nationale et le théâtre national. Le 1er juillet 2020, la nation a célébré la réouverture de son musée national fermé pendant près de 30 ans en raison de la guerre civile et du conflit. On l'a dit, en 2020 a vu l'Afrique perdre certains fils et filles dans le monde culturel. Emporté par le Covid-19 ou autre cause naturelle, le monde culturel se souviendra de Manu Dibango du Cameroun, Onus Mabele du Congo-Brazza, Idir Hamid Chéri d'Algérie, Mori Kanté de la Guinée, Nama Alima Bent la Russie de la Tunisie, Kassongo Wakanema du Congo Kinshasa, Ernest Kofi dit NST Kofi de la Côte d'Ivoire, Bala Sidibé du Sénégal, Jean-Yves Messan du Gabon et Fenli du Burkina Faso.
La liste reste longue hein, et à tous ces artistes, on dit rest in peace. Une occasion aussi pour moi de vous souhaiter, chers téléspectateurs et chers collègues, mes voeux les plus sincères d'espoir, de bonheur et de paix pour cette nouvelle année 2021. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et ici aux États-Unis, nous disons Happy New Year.
Merci beaucoup, Roger Muntu. Bonne année à vous également. Le monde du sport également n'a pas échappé à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Entre suspension de championnat, reprise sans spectateurs et report de compétition, les amoureux du sport sont passés par toutes les émotions. 2020 a aussi été touché par les scandales et la disparition de grands champions. Yacouba Ouédraogo revient sur les grands événements sportifs qui ont marqué le continent africain cette année.
Comme si les effets néfastes du Covid-19 sur le football ne suffisaient pas, cette fin d'année 2020 a surtout été frappée dans le domaine du sport roi le plus populaire en Afrique par la suspension du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad.
La commission d'éthique de la FIFA a mis le malgache sur le banc de touche pour 5 ans, lui reprochant plusieurs manquements d'éthique, dont corruption et détournement de fonds. Comme il fallait s'y attendre, Ahmad a saisi le tribunal arbitral du sport, demandant à la juridiction sportive de suspendre cette décision avec en ligne de mire sa candidature à un deuxième mandat à la tête du football africain lors du scrutin prévu le 12 mars 2021. Cette suspension du président de la CAF a divisé les Africains, certains dénonçant une mainmise du président de la FIFA Gianni Infantino sur l'institution continentale qui voudrait prendre son indépendance. D'autres y voient simplement un retour des vieux démons. Corruption, abus de pouvoir et autres dans la cage du football continental.
Sur le terrain, les compétitions ont été impactées. Certains championnats nationaux ont tout simplement arrêté leur compétition, proclamant des vainqueurs ou non. D'autres ont suspendu pour reprendre dans des conditions peu sportives, sans spectateurs, alors que le sport se nourrit bien sûr des spectacles.
Pour ce qui est des compétitions de football interclubs sur le continent, la Ligue des champions a vu le sacre du club égyptien d'Al Ahly, qui a décroché son 9e titre de champion d'Afrique en battant le Zamalek 2-1. Son grand rival, la Kairote, dans une finale 100% égyptienne. On retiendra aussi le sacre du club marocain, la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de la Coupe de la Confédération devant le club égyptien Pyramide FC, battu 1-0. Des sacres, dans la douleur, plusieurs joueurs ayant été contrôlés positifs au coronavirus lors des matchs, mais qui n'enlèvent rien au mérite de ces formations qui se sont battues jusqu'au bout.
En athlétisme, des compétitions ont eu lieu sur les pistes et dans les salles, même sans spectateurs.
En triple saut, l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zangou a réalisé un saut de 17,77 m en salle en février, établissant un nouveau record du monde de la discipline au meeting de Paris. Sur les pistes, le Kenyan Kibiwot Kandi, 24 ans, a explosé le record du monde du semi-marathon homme à Valence en Espagne en remportant la course en 57 minutes 32 secondes devant le champion du monde ougandais Jacob Kiplimo.
Bien évidemment, 2020 a été une année de rendez-vous manqués. En football, le championnat d'Afrique des Nations, initialement prévu du 4 au 25 avril au Cameroun, a été reporté.
Finalement, cette compétition qui met aux prises des footballeurs locaux évoluant sur le continent dans leur pays se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021, toujours au Cameroun, jugé prêt par la CAF pour abriter cette 6e édition. Dans une autre discipline, la balle au panier, le lancement du premier tournoi de la Basketball Africa League, prévu les 13 et 14 mars à Dakar, a été reporté à cause du coronavirus. Le report de cette première édition a douché les espoirs de voir une véritable compétition de basketball se développer sur le continent, surtout lorsqu'elle est créée et co-organisée par la prestigieuse Ligue nord-américaine de basketball, NBA.
Pour finir, dans les larmes, comme a commencé cette année, la nouvelle de son décès a surtout sonné l'Afrique. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, 68 ans, est décédé à Dakar du coronavirus.
2020 a aussi emporté un autre champion sénégalais, Papa Bouba Diop, décédé à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. Bien évidemment, même s'il n'est pas africain, le continent a été secoué par la disparition d'un génie du ballon rond, Diego Maradona, qui s'est éteint dans son pays, avec sans doute cet espoir de voir le sport en général et le foot en particulier retrouver son lustre d'avant coronavirus, c'est-à-dire se pratiquer dans des enceintes sportives pleines de spectateurs.
C'est du moins mon souhait sportif pour la nouvelle année 2021. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, vous qui nous avez suivis durant toute l'année sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité et vivement 2021 avec plus de positivité dans vos vies. À l'année prochaine.
Voilà, merci beaucoup Yacouba Traogo. Bonne et heureuse année également à vous. Et nous arrivons au terme de ce Washington Forum spécial. Merci à tous mes collègues qui ont participé, de même que l'équipe technique, ainsi que tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de l'année 2020. Je n'oublie pas, bien sûr, nos téléspectateurs et nos télépartenaires sur le continent. Meilleurs vœux pour 2021. À très bientôt. Au revoir.